Nous sommes toujours en compagnie de Sabine Barbecombe et Bernard Lefort. Je rappelle, Sabine Barbecombe, que vous êtes la responsable, la coordinatrice de la pastorale de la santé dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Vous intervenez aussi en tant qu'aumônier à l'hôpital de Tarbes. Et vous avez lancé la fraternité Saint-Luc dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, une fraternité donc qui permet à des soignants de se retrouver pour échanger. Et puis en face de vous, Bernard Lefort. Bernard Lefort, vous êtes médecin libéral retraité depuis 8 ans. Vous vous êtes formé aux soins palliatifs il y a très longtemps, et vous nous avez expliqué en première partie votre regard sur les soins palliatifs qui sont un des deux volets de ce projet de loi donc de la fin de vie qui est en débat au Sénat à partir de ce 20 janvier. L'autre volet, c'est celui de l'aide active à mourir. Alors là, c'est sur ce volet-là que s'agitent un petit peu les passions, les tensions, puisque l'aide active à mourir, évidemment, ne fait pas l'unanimité, mais pourtant, d'un côté comme d'un autre, qu'on soit pour ou contre, eh bien, on se dit et on dit que on est pour la dignité humaine et que c'est au nom de cette dignité humaine que on prend position pour ou contre l'aide active à mourir. L'aide active à mourir, au fond, qu'est-ce que c'est, Sabine Barbecombe? Ça veut dire quoi? Il y a quoi derrière l'aide active à mourir? C'est quel geste? Pour qui et par qui?
Alors, quand on parle de l'euthanasie, c'est une personne, un soignant, en l'occurrence médecin ou infirmier, qui administre une substance létale, c'est-à-dire mortelle, pouvant entraîner la mort à un malade qui n'est pas en capacité de le faire. Et la deuxième possibilité, c'est le suicide assisté, donc l'aide au suicide, où à ce moment-là, une substance létale est préparée dans une pharmacie et un soignant la remet au malade, qui lui, à ce moment-là, est en capacité de le prendre, et c'est le malade qui s'administre cette substance.
Donc l'aide active à mourir, c'est l'une ou l'autre de ces possibilités.
Voilà, donc à savoir ce qui va être décidé, comment cela se passera, mais ça peut être...
En tous les cas, dans le projet de loi, c'est ça qui est proposé.
Alors, c'est plutôt l'aide au suicide, et quand le malade ne pourra pas s'administrer lui-même le produit, par exemple dans une maladie neurodégénérative comme une maladie de Charcot où la personne n'est plus en capacité d'utiliser ses bras, c'est le soignant qui administrerait la substance létale.
Bernard Lefort, vous en pensez quoi, pour demander des choses très, très concrètes? Vous êtes médecin, qu'est-ce que c'est pour vous l'aide active à mourir?
Pour moi, l'aide active à mourir, c'est faire... moi, j'emploierais le mot d'euthanasie, c'est-à-dire que c'est soit aider quelqu'un à mourir en l'aidant à se injecter un produit, soit effectivement avoir un geste d'euthanasie. Je crois qu'il faut appeler un chat un chat.
Ce n'est pas un soin. Je vous posais cette question-là parce que, évidemment, c'est un sujet là dont on entend parler sur tous les médias. Il se trouve que on entend aussi des soignants dire, moi, j'y suis favorable parce que je vois cette aide active à mourir comme un soin qu'on apporterait pour soulager la souffrance du patient. Vous nous dites, vous, Bernard Lefort, non, ce n'est pas un soin.
Non, ce n'est pas un soin. Et en tant que médecin, je vous rappelle que j'ai prêté un serment lorsque j'ai passé ma thèse et que je suis devenu docteur. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. J'ai prêté ce serment il y a une quarantaine d'années. Je ne peux pas me parjurer. Et je pense que pour tous les médecins, c'est la même chose.
Oui, enfin, cela dit, il y a des médecins qui y sont favorables.
Oui, voilà.
Alors, je pense qu'il y a des médecins qui considèrent que, à partir du moment où ils ont accompagné quelqu'un en tant que patient un certain nombre d'années, il faut l'accompagner jusqu'au bout, et donc l'accompagner jusqu'à la mort si le patient demande l'euthanasie.
Il y a quelques années, avait eu lieu à Tarbes une table ronde avec notamment des soignants de l'unité mobile, de l'équipe mobile de soins palliatifs. Certains d'entre eux disaient, on comprend cette idée de l'aide active à mourir, mais nous, on est témoins que quand, avec les soins palliatifs, on est capable vraiment de soulager la douleur, qu'elle soit physique, psychologique, spirituelle, ou les trois d'un coup, de la personne malade, eh bien cette demande d'aide active à mourir, elle diminue, voire elle est oubliée complètement.
C'est une réflexion régulière de la part des médecins qui travaillent dans les unités de soins palliatifs. Cette demande arrive régulièrement et il faut l'entendre, il faut la travailler, il faut là effectivement réfléchir en collégialité dans le service. Et quand on a compris un petit peu peut-être le soubassement de cette demande, pourquoi cette personne demande à mourir, on peut travailler dessus. Et effectivement, quand les équipes arrivent à travailler sur cette demande, la plupart du temps, s'évacue. Et la persistance de cette demande est, de la part des médecins de soins palliatifs, très, 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 très rare. C'est-à-dire que on ne va pas faire une loi sur quelque chose qui est, dans la mesure où la prise en charge en soins palliatifs est bien faite, cette demande, la plupart du temps, n'existe plus.
Dans ce projet de loi d'aide active à mourir, la mise en place quand même de cette aide active à mourir, elle requiert plusieurs conditions. Je crois qu'il est question de 5 conditions en particulier pour qu'on soit bien, bien précis et bien clair et pour qu'on donne aux auditeurs aussi tous les éléments pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer. C'est quoi ces conditions? Parce que il faut quand même être clair. Cette loi, elle n'est pas comme ça pour tous, tout le temps. Enfin, qui veut, il y a quand même un cadre qui est proposé.
Alors, il faut être majeur. C'est-à-dire que les mineurs qui sont émancipés par leurs parents n'y ont pas droit. Voilà. Il faut être de nationalité française ou résider en France de façon stable et permanente. Il faut être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou en phase terminale. Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection et qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne. Et aussi, quand le malade a pris la décision d'arrêter tout traitement. Et donc on sait qu'à ce moment-là, si le malade, ce qui est son droit, demande à arrêter tout traitement, on sait que si l'arrêt des traitements provoque une souffrance
atroce.
Là, ça peut faire partie des critères pour pouvoir bénéficier de l'euthanasie. Et il faut aussi être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Donc là, c'est pas possible que quelqu'un de l'entourage dise « Mais moi, je suis son épouse, je suis son frère, je suis sa mère, je le connais très bien et je sais que là, il veut partir, donc on le laisse partir. »
Non, mais
on provoque son départ.
En même temps, on peut penser, et c'est le risque, que certaines personnes, même si elles sont en toute capacité de prendre des décisions, on peut penser à une personne âgée par exemple, soient fortement incitées par sa famille à demander une euthanasie. Parce que tu comprends, papa, ta vie est inutile, tu fais plus rien.
Enfin, dans le cadre que vous, dans les conditions que vous énumérez.
Mais dans les conditions, c'est la personne qui prend la décision.
Et donc, dans les conditions.
Même, on se pose le cas de la personne souffrant de déficience intellectuelle.
Oui.
Hein, et même dans ce cas-là, même une personne souffrant de déficience intellectuelle est éligible à l'euthanasie.
Encore faut-il pouvoir l'exprimer.
Encore faut-il pouvoir l'exprimer.
Est-ce que ce cadre-là, Bernard Lefort, il vous rassure? Est-ce qu'il est suffisant pour que, et du côté soigné et du côté soignant, ce soit rassurant et qu'on se dise, en fait, c'est bien cadré, donc il n'y a pas trop de risques?
Oui, deux réponses. La première qui me vient à l'idée, c'est que dans tous les pays où il y a eu un cadre assez restrictif, pour ces demandes d'euthanasie, on a vu qu'au fur et à mesure que les années passaient, ce cadre a éclaté et l'euthanasie devient de plus en plus, entre guillemets, facile. La deuxième réponse, c'est que nous avons déjà, depuis 2016, tout l'appareil législatif qui peut répondre à ces demandes, notamment la loi Claeys-Leonetti, met en travail le fait de de pouvoir administrer une substance qui permet, lorsqu'il y a des souffrances intolérables et ou des phénomènes médicaux intolérables comme des étouffements, comme des hémorragies cataclysmiques, comme des douleurs improbables qu'on n'arrive pas à traiter, une sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Donc ça, c'est déjà prévu dans la loi
Claeys-Leonetti. Ça, c'est déjà prévu dans la loi il y a 10 ans, hein, 2016. La loi Claeys-Leonetti. Et donc, ce qui est important de se rendre compte, c'est que dans le cadre de cette loi, c'est l'intention qui compte. L'intention n'est pas de donner la mort, mais on provoque une sédation profonde et continue avec, premièrement, un produit qui est un anesthésique et qui permet de ne plus se souvenir de ce qui se passe, et deuxièmement, de la morphine qui permet de passer un cap douloureux de façon importante. Voilà. Et si le décès peut survenir, non pas du fait de ces traitements, qui ne sont pas des traitements pour faire mourir, mais le décès survient de façon naturelle alors que l'on donne ce traitement. Voilà. Et ça, c'est un problème d'intentionnalité. L'intention n'est pas de donner la mort.
Donc finalement, le point de changement, il est vraiment sur ce point d'attention entre la loi Claeys-Leonetti et le projet de loi qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Alors malheureusement, on arrive déjà au terme de cet échange. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Et peut-être que pour terminer, justement, vous pouvez nous donner conseils aux auditeurs pour savoir où et comment bien s'informer. Parce que là, on comprend que la loi Claeys-Leonetti, en fait, elle a 10 ans. Et que soit elle n'est pas connue, ou mal connue, ou pas appliquée, ou mal appliquée. Enfin, on a du mal à comprendre pourquoi une loi qui permettrait de prendre bien soin des personnes qui souffrent n'est pas mieux connue et mieux appliquée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en savoir plus? D'abord, est-ce qu'il est encore temps là, de bouger sur cette question-là?
Pas connue et pas appliquée, y compris parmi les soignants. Ça, c'est quelque chose d'important.
C'est pas rassurant ce que vous nous dites, Bernard Lefort.
Mais quand on les interroge, ah bon, etc. Voilà, il faut vraiment s'y intéresser. Ma source principale d'information, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui s'appelle l'ASFAP.
Vous avez été actif dans cette association?
Non, moi, j'étais pas dans cette association, j'étais dans une autre association, mais c'est vraiment la référence, hein, où il y a tout, justement, la discussion au niveau de ces lois, au niveau de toutes les formations, au niveau de soins palliatifs, etc. C'est une mine, effectivement, voilà. Cette référence.
Après, il faut s'informer parce que on est tous concernés, d'abord parce qu'on sera tous un jour confrontés à notre propre fin de vie et qu'évidemment nos proches également, donc il y a aussi la question des directives anticipées. Enfin, on a vraiment, vraiment intérêt à s'informer sur cette fin de vie et sur le cadre législatif.
Alors sur le diocèse, il faut préciser qu'il existe SP2, la Société Pyrénéenne des Soins Palliatifs, qui forme tout un chacun, les soignants comme les bénévoles, tout comme vous, moi, à être attente, à vraiment savoir ce que sont les soins palliatifs pour être éventuellement bénévole. Donc déjà, ça existe.
Ça veut dire aller rendre visite aux personnes
Alors,
malades
après,
dans les soins palliatifs.
Une fois qu'on est formé, on peut aller rendre visite aux malades en tant que bénévole. Et puis, deuxième chose, à la demande de Monseigneur Mika, je suis en train de préparer une matinée d'information pour tous les chrétiens du diocèse. Donc je ne peux pas encore vous donner date parce que c'est en cours d'élaboration. Ça sera vraisemblablement un samedi matin avant la fin du carême, pour justement informer tout le monde sur la loi, sur ce qui existe, et pour que chacun, chacune puisse discerner en son âme et conscience.
Voilà, et on termine, Sabine Barbecombe, avec une information, puisque je l'ai dit au début de cette émission, vous êtes responsable de la pastorale de la santé dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, et vous voulez nous parler, pour terminer, d'un rendez-vous à la journée pour les personnes handicapées.
Voilà, depuis 1992 est proposée la Journée internationale du handicap avec différents partenaires, et en particulier des partenaires religieux et chrétiens. Cette année, alors normalement cette journée a lieu le 3 décembre. Pour des raisons pratiques, sur notre diocèse, nous n'avons pas pu l'organiser au mois de décembre. Cette année, vu le thème de l'année jubilaire, le thème est « Chante avec moi l'espérance partagée ». Et cette année, cette journée aura lieu le dimanche 1er février 2026 à la maison diocésaine Saint-Paul de 10h30 à 17h, avec des ateliers, un repas tiré du sac La messe, bien sûr. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Sabine Barbecombe, pour ce rendez-vous Journée internationale du handicap, célébré, fêté dans le diocèse de Tarbes et Lourdes le dimanche 1er février prochain. Merci à tous les deux d'être venus nous donner votre éclairage sur cette question de la fin de vie. Je rappelle que la question de la fin de vie est vraiment au cœur des débats parlementaires puisqu'elle est examinée par le Sénat à partir de ce 20 janvier jusqu'au 26 janvier. Il faut s'informer sur le sujet. Merci beaucoup à tous les deux, Bernard Lefort, Sabine Barbecombe.
Merci Anne-Rose.
Merci.